France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la faute de l'abbé Cottard. C'est l'histoire d'un prêtre qui encadre un camp de jeunes garçons et qui pousse sept adolescents à prendre la mer malgré le mauvais temps, l'épuisement des enfants, l'impréparation de la sortie et l'absence de toute règle de sécurité. Résultat, le 22 juillet 1998, cette traversée en mer près de Perros-Guirec vire au cauchemar. Sur les sept ados âgés de 12 à 17 ans qui montent dans la petite embarcation, quatre ne reviennent pas. Et un plaisancier qui tente de leur porter secours meurt lui aussi dans la tempête. L'enquête égrène les fautes de l'abbé qui encadrait à sa façon les jeunes garçons. Privation alimentaire, activité quasi paramilitaire et messe en latin. Jean-Yves Cottard aurait pu et surtout aurait dû annuler la sortie en mer. Il en avait le pouvoir. Mais ce prêtre de la fraternité traditionnaliste Saint-Puy-X n'a rien fait. L'intransigeance de l'homme, adossée à l'intransigeance de sa foi, a tué cinq fois cet été-là. Notre invité aujourd'hui, l'avocat Yann Gasnier, partie civile au procès, dans une affaire, il nous le dira, qu'il a profondément marqué. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Siam Spencer, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Lundi 20 juillet 1998, tôt le matin, 32 adolescents s'activent, nettoient, plient et remballent leur camp de Trédé-Locmo à l'embouchure de la rivière de Lannion dans les Côtes d'Armor. Les cernes sont creusées, les lèvres sont bleues et gercées. La fatigue est telle qu'elle a éteint l'excitation des garçons. Au milieu de toute cette jeunesse, l'abbé Jean-Yves Cottard, responsable de la colonie. Aujourd'hui, c'est un grand jour, celui du raid marin. Une traversée en mer d'une vingtaine de kilomètres pour rejoindre le port de Perros-Guirec, plus à l'ouest. Les adolescents embarquent dans quatre caravelles, des voiliers de 5 mètres de long. On donne rendez-vous au port en milieu d'après-midi. À 15h, deux caravelles arrivent sans encombre, mais les deux autres prennent du retard. Embarquées par des courants trop puissants au large, elles n'arrivent pas à rentrer dans le port. Les deux équipages dérivent dangereusement le long de la côte de granit rose. À bord, on s'efforce de tenir la barre et de tirer sur la voile. Les deux équipages mettent finalement pied à terre au bout de longues heures à combattre les éléments. Ils sont épuisés, mais en vie. Un groupe a échoué à Port-Blanc, un autre à Port-Béni, à une vingtaine de kilomètres de leur objectif initial. Le lendemain matin, les deux caravelles reprennent la mer, toujours avec l'objectif de rejoindre Perros-Guirec. L'une y parvient dans l'après-midi. La seconde, nommée l'Espadon, rate l'entrée. Donc, retour à la case départ, à Port-Béni, qui ce jour-là porte bien mal son nom. Extrait du rapport d'enquête.
Dans la nuit du 21 au 22 juillet, l'équipage de l'Espadon bivouaque à nouveau dans des conditions inconfortables à Port-Béni. Le bivouac est monté sous une simple bâche, plus une petite tente de deux places. Les enfants tentent de s'amuser. Un repas chaud est pris. Des témoins les voient jouer sur une balançoire. La nuit est fraîche, ce qui rend probable une aggravation des éventuelles hypothermies.
Sur les galets durs où les adolescents installent leur campement, on ravale des larmes d'épuisement. Parce que l'important, c'est de suivre les ordres de l'abbé Cottard. Réessayez, leur dit-il. La météo de demain sera bonne. Troisième matin, troisième départ, troisième essai pour les ados. Ils sont les seuls à ne pas avoir atteint Perros-Guirec. Mais cette fois, ce sera la bonne. Ils y seront pour 15 heures. La caravelle glisse sur l'eau. Les plus âgés s'activent, tandis que le plus jeune grelotte au fond de la coque le regarde dans le vide. Lorsqu'ils embarquent, ils sont 7. Antoine Gérard, 12 ans. Antoine Bûcher, 13. Damien Lannet-Delanty, 13 également. Jean Jodot, 14 ans. Benoît Vendré, 15, Jean-Baptiste Pruvot, 16, ainsi que Grégoire Artiglouve. Seuls trois d'entre eux reviendront vivants. Car la météo n'est pas bonne ce mercredi-là, mais alors pas du tout. Au large, le vent se lève, des rafales jusqu'à 60 km/h. Le club de voile de Perros-Guirec suspend ses activités, les pêcheurs reviennent au port. surpris par ces gosses qui partent là en mer, un jour de grand frais.
Leur bateau, un espadon de 4,60 m, est conçu pour 6 personnes. À bord, ils sont 7, leur chef le plus âgé a tout juste 16 ans.
Je m'étonnais parce qu'ils étaient à 6 ou 7 dans le bateau, là. Très jeunes, je crois que l'aîné peut-être avait 13, 14 ans, j'en sais rien. Mais visiblement pas du tout taillé pour faire de la mer.
Les pêcheurs qu'ils croisent leur font signe, leur crient de ne pas y aller. Mais rien à faire, les ados s'entêtent. Il faut obéir à l'abbé Cottard. Alors ils s'activent, toujours sans le moindre adulte à bord pour les superviser. C'est Grégoire, le plus âgé, qui est aux commandes. La caravelle s'éloigne, elle n'est bientôt plus qu'un minuscule point à l'horizon. Bientôt la pluie tombe, le vent commence à souffler et les vagues se gonflent à son passage. L'embarcation est poussée vers le large, plus loin, bien plus loin que ne le souhaitent ses passagers. Il est à peine 10 heures. À 13 heures, une immense rafale de vent pousse l'embarcation, tandis qu'une vague la soulève. Le petit bateau chavire, les 7 gamins tombent dans une eau à 15 degrés. On crie, on s'agrippe les uns aux autres, on s'accroche à la coque. Sous les encouragements des plus âgés, le petit groupe parvient à redresser la caravelle. Mais le répit est de courte durée. Le petit bateau, absolument pas conçu pour naviguer dans ces conditions, chavire de nouveau. Et là, la panique s'empare du groupe. On décide de tirer deux feux de détresse, mais rien ne bouge. Pas un bateau en vue. Le vent souffle toujours plus fort, toujours plus loin, toujours plus violemment. Il continue de pousser l'équipage au large. Les poissons blêmes, les lèvres violettes, les yeux mi-clos. C'est Damien qui est emporté le premier par la mer. Il est 16h30. Jean-Baptiste, lui, est à bout de force, presque inconscient. Il lâche prise à son tour, puis Antoine Bûcher est avalé par les flots. À terre, l'abbé Cottard commence à peine à s'inquiéter. À 21h53, son adjoint contacte enfin le Centre National Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage. Et à 22h12, un message est diffusé sur les ondes.
Sommes sans nouvelles d'une caravelle, coque bleue et blanche. Je répète. Sommes sans nouvelles d'une caravelle, coque bleue et blanche, avec 7 personnes à bord, partie de Port-Blanc ce matin, 8h, pour Perros-Guirec. Ne sont toujours pas arrivés. Il est demandé à tous les navires sur zone d'exercer une veille attentive et de prendre contact avec le Cross-Corsen.
Les 3 adolescents encore en vie sont à 30 km des côtes. La nuit est noire, le vent souffle, toujours. Nous sommes pourtant en plein mois de juillet. À 23h30, cela fait 15 heures que les gamins luttent contre la mort. Mais tout à coup, au loin, ils perçoivent le bruit de 2 bateaux. Alors les naufragés lancent leur dernier feu de détresse. Mais les moteurs s'éloignent. C'est un voilier de 12 mètres qui apparaît, finalement, l'Alpin. À bord, 3 hommes. Yves Béconnier, Yves Corneloup et Guillaume Castanet. Ils mettent le cap sur l'Irlande quand la lumière éclatante du feu détresse les alertes. L'Alpin quitte sa route et se rapproche de la caravelle. Ce que voient leurs 3 passagers les choque. La mère de Guillaume Castanet raconte ce sauvetage de l'horreur sur le plateau de l'émission D'un monde à l'autre, sur France 2.
Il y avait un avis de gros temps de voir 6 ou 7. Je peux vous dire que par 26 6 ou 7, on ne sortait pas. Mon fils lui est parti avec ses 2 coéquipiers vers 18h. Et puis, sur le coup de près de minuit, un petit peu avant minuit, ils ont vu un fausse carte, c'est-à-dire une alerte rouge. Et ils se sont dirigés tout de suite sur le bateau, enfin sur ce fausse carte. Mmh. Et ils ont découvert des enfants qui étaient apeurés, qui pleuraient, qui criaient.
En pleine nuit.
En pleine nuit, il était près de minuit. Mmh. Imaginez, il y avait un grain, il y avait une forte mer, il y avait de la houle, il y avait de la pluie et des enfants qui hurlaient. Donc ils ont tous très vite, ils étaient 3 à bord, tous très vite chacun pris sa place. Il y avait le skipper qui barrait, l'autre équipier qui avait un gros projecteur parce qu'ils avaient très très peur de les perdre parce que ce bateau était minuscule dans l'océan, qui était quand même pas en furie mais avec des gros grains. Et mon fils qui était chargé de lancer des voûtes. Tout ça en faisant des tours autour d'eux.
Les 3 hommes s'activent comme ils peuvent. Un premier adolescent parvient à monter à bord, puis un second. Mais le vent menace toujours. Une rafale balaie la grand-voile de l'Alpin qui change brutalement de direction. Concentré sur le sauvetage des garçons, Guillaume Castanet ne voit pas la baume qui balaie l'air d'un coup sec. Elle s'abat violemment sur son crâne. Il est projeté dans l'eau. Sans gilet de sauvetage, il coule et disparaît dans les eaux noires de la Manche, sans un cri. On jette une bouée, en vain. Yves Béconnier et Yves Corneloup voient leur ami disparaître, impuissant. D'autant qu'il reste un garçon hissé sur leur voilier, Jean. Il est sauvé, in extremis, après un énième retournement du bateau. Une fois en sécurité, il est presque inerte et s'endort aussitôt, d'épuisement. À 00h30, tout est fini. L'équipage contacte le Cross-Corsen. C'est le dernier appel de la soirée. Il dure 21 secondes.
On va mettre un Zodiac à l'eau et récupérer déjà les vivants. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Pour le cadavre, on verra après.
Un homme et quatre adolescents sont morts. Trois sont sauvés. Et l'un d'eux répète inlassablement « Merci d'être passé, merci d'être passé. » 24 juillet 1998, 9h du matin. Les gendarmes font irruption dans le petit bois qui abrite le camp scout. Jean-Yves Cottard est en pleine messe religieuse, une messe en latin. Il est embarqué par les gendarmes avec les deux autres responsables du camp, Jean-François Pépé et Damien Bon, relâchés très rapidement, considérés comme de simples exécutants. Pour le procureur de la République, Philippe Astruc, le seul responsable de ce naufrage, c'est ce curé, l'abbé Cottard. Extrait du journal de France 3.
Il m'apparaît qu'il y a eu, dans ce dossier, un manquement délibéré, en conscience, des obligations prévues par la loi, qui ont conduit au résultat que l'on sait. Il y a là donc des charges graves que je retiens, pour ma part, contre le seul responsable, à l'heure actuelle, clairement désigné, qui est le responsable du camp, l'abbé qui encadrait ces jeunes.
Aux enquêteurs, Jean-Yves Cottard assure. Il a appelé les secours dès la fin d'après-midi. Mais les relevés téléphoniques, eux, ne mentent pas. Il n'y a pas un coup de fil avant 21h53, soit 7 heures après l'heure d'arrivée prévue des adolescents. Le prêtre est rapidement mis en examen, écroué, direction la maison d'arrêt de Saint-Brieuc. Quatre jours plus tard, le 28 juillet, à des centaines de kilomètres de là, on célèbre les obsèques des jeunes garçons décédés. Les cloches sonnent et une foule compacte d'un millier de personnes s'engouffre dans l'église de Mantes-la-Jolie.
La fin du voyage pour Damien et Antoine. Les deux cercueils ont symboliquement été placés dans la cathédrale à proximité d'un troisième vide, celui de Jean-Baptiste dont le corps n'a pas été retrouvé. Près de 1000 personnes ont tenu à assister à la messe en latin dans la cathédrale que le curé de la paroisse a prêtée à la communauté intégriste. La communauté qui a réaffirmé son soutien à l'abbé Cottard. Au sein de l'assistance, quelques rares voix se sont tout de même élevées contre la volonté des traditionalistes de voir l'abbé Cottard célébrer la messe, comme cette parente d'une des victimes, très choquée par cette attitude.
J'ai été même choquée par le serment du prêtre à la sortie, où ça a été un plaidoyer pour cet abbé qui, quand même fait beaucoup d'imprudence et je ne suis pas du tout de cet avis.
Évidemment, les visages sont fermés. Mais les pleurs sont quasi absents. Non, pas de colère, pas de regret non plus. On dit bien quelques mots sur ces enfants morts en mer. On rend hommage, en une phrase, à Guillaume, le plaisancier décédé en sauvant les jeunes garçons. Mais rapidement, le sermon prend une toute autre tournure, revendicative, élogieuse, politique. Un véritable plaidoyer pour la libération de l'abbé Cottard, décrit comme un père, un médecin de l'âme. Les obsèques des adolescents sont écrasées par l'incarcération du responsable du camp. Même chez les parents des adolescents qu'on enterre, on demande la libération de Cottard. Écoutez ce père d'une victime.
Je suis blessé dans ma chair parce que j'ai perdu un fils. Et je suis blessé parce que j'ai appris que M. l'abbé Cottard a été incarcéré comme un brigand, comme un malfaiteur. Je demande au juge d'instruction de repeser sa décision. Monsieur l'abbé Cottard n'a rien à faire en prison.
L'abbé a fait passer un message à ses fidèles. Il leur demande de ne pas s'inquiéter. Et il ajoute que la casse-prison, finalement, ce sera l'occasion de faire une retraite.
Trying to titrate, I ended up in
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la faute de l'abbé Cottard.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Un mois ne s'est pas écoulé depuis la mort des adolescents et de leurs sauveteurs que l'abbé Cottard est remis en liberté. Le 13 août 1998, ce que demandaient les familles des jeunes noyés. Oui, les familles des victimes. Pour comprendre l'incompréhensible, c'est du côté de leur pratique religieuse qu'il faut se pencher. Parce que leur guide, Jean-Yves Cottard, n'est pas un abbé classique. Il est prêtre au sein de la Fraternité Saint-Pie-X, une officine issue de l'Église catholique, mais en rupture avec Rome et son pape. Des intégristes, quoi. La Fraternité Saint-Pie-X, c'est celle des traditionalistes, des monarchistes, des officiers de carrière et des partisans du Front National. La Fraternité Saint-Pie-X, c'est Maurras, l'Action française et plus tard l'Algérie, qui pour eux, évidemment, aurait dû rester française.
Ils sont fourbus, mais heureux. Eux, ce sont les pèlerins rassemblés par la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Autrement dit, les partisans de Mgr Lefebvre. Ils se considèrent comme les gardiens du dogme. Favorables à la messe en latin et au célibat des prêtres, mais vous aux gémonies, l'homosexualité, l'avortement et l'homoparentalité. Pour toutes ces raisons, ils ne sont pas en odeur de sainteté avec le Vatican des brebis galeuses.
Ce qui n'est pas négociable, c'est qu'on nous demande d'enterrer la tradition ou de la mélanger avec ce qui nous semble, nous, véritablement être la cause du désert spirituel qu'on constate autour de nous. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de vocation, si les jeunes ne veulent plus rentrer au séminaire, encore une fois, il y a une cause. Est-ce qu'ils ont encore le sens du don de soi, le sens du sacrifice? Est-ce qu'on leur parle de ces choses-là? Ou est-ce qu'on s'aligne justement sur la mode actuelle? Si c'est ça, c'est impossible.
Jean-Yves Cottard s'épanouit dans cet écosystème bien particulier de la Fraternité Pie-X, dont fait partie l'Association française des scouts et guides catholiques. Mais qu'on ne s'y trompe pas. cette organisation est en rupture, là encore, avec les vrais scouts de France. Un procès oppose même les deux associations en 91, obligeant les traditionalistes à changer de nom. L'AFSGC n'est reconnue par personne, sauf par les parents qui inscrivent leurs enfants. Et pourtant, c'est bien les scouts que Cottard et d'autres prétendent former. Selon la méthode de Lord Robert Baden-Powell, l'inventeur du scoutisme, celui-là même qui définit le scout parfait comme suit. Un adolescent, fille ou garçon, en bonne santé, habile de ses mains, de sa tête, prêt à aider son prochain et entretenant avec soin sa relation à Dieu, quelle que soit sa religion. Très vite, le concept originel séduit les parents du monde entier. Mais au sein de l'association à laquelle appartient Cottard, on va plus loin. Douche froide, messe en latin, marche de 30 km, la nourriture et le sommeil sont en option. Des pratiques dangereuses, validées pourtant par les parents de dizaines de jeunes gens, des pères et des mères qui vouent une confiance aveugle à l'abbé Cottard. Ce même abbé qui s'adresse à eux en septembre 92 en des termes qui, sachant ce qu'on sait du drame dont il est responsable, sont glaçants.
À tous ces parents, je leur dis, ne vous inquiétez pas. J'ai des contrats d'assurance extraordinaires que je vous propose de souscrire. Le premier, c'est Saint-Joseph d'assistance. Le second, c'est Ange gardien, 24 heures sur 24.
Dans ce climat quasi sectaire, le silence sur ce qui s'est passé au large de Perros-Guirec est de règle. Il faut attendre 5 mois pour qu'une mère de famille, une seule, se porte partie civile. Il s'agit de la mère de Damien Lannée de Lanty. Elle est aussitôt traitée en ennemi, quelqu'un à amadouer ou à abattre. Rapidement, les visites impromptues et les coups de pression s'enchaînent à son domicile. On lui propose de l'argent, plusieurs dizaines de milliers d'euros, une sorte de dédommagement pour la mort de son fils, et surtout, une injonction à se retirer de la procédure. Mais la mère de famille tient bon. Dans la presse, une autre mère s'active, celle du plaisancier mort en sauvant les enfants, Guillaume Castanet.
Je veux dire, quand on voit bon, ce charisme qu'il a auprès de toute cette congrégation, enfin, qui est quand même proche d'une secte, hein, faut quand même appeler les choses par leur nom, je suis très inquiète au niveau des témoignages des parents. On n'a jamais entendu une mère parler. Alors vous n'allez pas me dire que ces mères, quand même, elles sont comme moi, elles souffrent. C'est pas possible qu'une mère ne ressente pas la mort de son fils et en voyant les fautes qui ont été commises. À 16h, on ne fait rien. À 17h, on ne fait rien. Vers 17h30, il envoie un adjoint aller se renseigner quand même, qui peut regarder au bord de la mer ce qui se passait. Et à 21h53, alors qu'il faisait nuit noire, on avertit les secours. Les secours peuvent rien faire, cet orge-là. Rien. On a retrouvé l'embarcation à 20 km des côtes.
Quelques jours avant le procès, un rapport d'enquête est rendu public. Les 111 pages qu'il contient sont accablantes. Les deux mères, celle de Guillaume et celle de Damien, y trouvent les réponses à leurs questions, mais surtout, de quoi alimenter leur colère. Par exemple, l'association MJ, acronyme de Marine Éducation Jeunesse, dont dépend directement le camp scout, eh bien sur le papier, elle est censée, je cite, « prévenir la délinquance juvénile et la toxicomanie par la formation aux disciplines de la mère ». En 1996, grâce à cette prétendue mission, l'association obtient des subventions permettant l'achat du matériel naval. Et évidemment, aucune action n'a jamais été organisée en direction de jeunes toxicos ou de délinquants. On apprend encore, au fil des pages du rapport, que le camp n'a pas de numéro d'agrément, ou que l'abbé Cottard, contrairement à ce qu'il affirme, n'est jamais passé par la marine nationale. Il n'a pas un seul diplôme le qualifiant pour encadrer un stage nautique. Et puis il y a les fiches du camp, censées donner le déroulé de chaque journée. Elles aussi, bidon, occultant bien sûr, les sorties en mer. Le rapport revient sur la journée du drame, évidemment. Jean-Yves Cottard prétendait avoir prévenu lui-même les secours peu avant 22h. C'est son adjoint qui l'a fait. Et mal. Il a confondu Port-Béni, d'où sont partis les ados, et Port-Blanc, plus à l'ouest. Ce qui égare les secours. L'erreur n'est rectifiée qu'une heure plus tard. Et puis il y a le matériel, la caravelle, défectueuse selon le rapport, les gilets de sauvetage en mauvais état. L'abbé Cottard a beau invoquer la volonté divine, la justice des hommes, elle, retient les homicides volontaires par manquement, délibérés à des obligations de sécurité et de prudence. Le procès du prêtre s'ouvre à Guingamp le 18 octobre 1999.
On l'avait présenté comme un homme dur, impitoyable, pour tout dire fanatique. Face au tribunal, l'abbé Cottard se veut souriant, même si l'on devine derrière ce sourire un peu crispé, une gravité empreinte d'inquiétude. Au pied de l'ecclésiastique, lorsqu'il se tient debout face au tribunal, les gilets de sauvetage des quatre scouts qui périrent en mer lors de la tragique équipée. Ce sont les seules pièces à conviction. Elles sont là pour rappeler au prévenu qu'il est jugé pour homicide involontaire.
Dans la salle d'audience s'installent ce matin-là des hommes d'église, silhouettes floues en soutane, psalmodiant à mi-voix des phrases liturgiques en latin. À leur côté, les parents des enfants décédés, cheveux ras et coupe militaire pour les hommes, longue jupe de flanelle sombre pour les femmes. Mais l'ambiance est différente au théâtre de la ville, où un écran géant retransmet les débats. Une décision que le procureur de Guingamp explique par, et je le cite, « l'impact énorme de la catastrophe et par l'émotion ressentie dans la région envers les drames de la mer ». Quand l'abbé Cottard arrive dans le tribunal, tout devient silence. Après l'énoncé des faits, le tribunal retrace le parcours du prévenu. Ses études de théologie, son prieuré à Mantes-la-Jolie, puis défilent les témoins, tous aussi élogieux les uns que les autres envers ce prêtre tout-puissant en son prieuré. Mais après les éloges, les faits. Le tribunal liste les manquements relevés. L'entraînement des adolescents à la navigation, des cercles dans l'eau avec des caravelles. Pas en mer, non, sur un lac. Et puis il y a les problèmes sur terre, les randonnées presque en vivre, où certains enfants sont recueillis et nourris par les habitants. Mais l'abbé le répète encore et encore, il n'est pas responsable et il se défausse sur son adjoint, qui explique qu'il s'en remettait à l'abbé. En fait, tout s'en remettait à l'abbé et lui s'en remettait aux autres. C'est pas moi, c'est lui. Courage, fuyons.
Que pouvait ajouter le procureur à l'issue de deux journées de procès ayant clairement établi l'incompétence et l'irresponsabilité de l'abbé Cottard ? Peut-être les mensonges et les dissimulations de l'ecclésiastique. Vous mentiez aux parents, rappelle le procureur, lorsque vous vous présentiez comme un ancien officier de marine, vous, le réformé du service militaire. Vous dissimuliez à l'administration les activités nautiques que vous organisiez, car vous saviez ne pas être en règle. Sur son banc, l'abbé transpire, s'essuie avec un mouchoir. Seul réconfort, le soutien que continuent de lui apporter les familles des victimes. Seules deux familles se sont portées partie civile, dont celle de Guillaume Castanet, le plaisancier noyé en portant secours aux scouts en détresse.
Qu'est-ce qui vous choque le plus dans les réponses de l'évêque?
Je ne sais rien, je ne savais pas, c'est pas moi, c'est...
Plus l'audience avance, plus l'abbé perd de sa superbe et de sa morgue. Le mauvais état des bateaux, il ne savait pas. Les tests de natation... Il n'a pas vérifié. Les enfants surnombrent sur les caravelles. Il n'a pas fait attention. Un témoin raconte la fatigue sur les visages de ces gamins, obligés de camper sur un mauvais sol de galets les soirs de raid. L'ordre venait de Cottard, mais évidemment, lui ne s'en souvient plus. Et sa voix se fait de plus en plus sourde, plus nasillarde, comme s'il entrait un peu plus profondément en lui-même. Dans les couloirs, Yves Béconnier, l'un des sauveteurs du voilier, aperçoit un adolescent rescapé, Jean. Ému, il s'avance vers lui. Mais le jeune homme semble réticent, car lui aussi est malgré tout un soutien de l'abbé, prisonnier d'une foi traditionnaliste. À la barre, Béconnier raconte le sauvetage, et l'après, ses semaines et ses mois, sans la moindre lettre de remerciement. Puis c'est l'autre sauveteur, Yves Corneloup, qui se présente devant le tribunal.
Personne ne s'est manifesté. On a fait notre devoir de marin, mais on a vécu une nuit épouvantable. Ce long voyage au bout de la nuit ne s'est jamais terminé. On aurait pu, après, voir le sourire pâle d'un enfant. La vie aurait repris. Les enfants étaient tellement fatigués qu'ils n'arrivaient pas à saisir le bout qu'on leur lançait. Je me souviens d'un jeune garçon à lunettes qui serrait contre lui, comme on serre un bébé, le corps d'un camarade. Le petit dernier avait un quignon de pain coincé entre les dents.
Quand les deux plaisanciers finissent leur déposition, l'abbé Cottard se lève et les remercie. Enfin. Mais un an est passé, il est trop tard, répondent les sauveteurs. Le procès touche à sa fin. Dans ses réquisitions, le procureur nomme chacune des victimes, désigne l'abbé comme seul et unique responsable du drame et insiste sur la peur des enfants, la nuit, la pluie, la tempête, les hurlements. Il lance alors... puis ses cris et ses noms hantaient vos nuits à jamais, monsieur l'abbé.
L'abbé Cottard n'est pas venu entendre la justice des hommes. Elle le condamne à 4 ans de prison, dont 18 mois ferme. Le tribunal a retenu que le prêtre avait délibérément enfreint les règles de sécurité et qu'il était conscient de la dangerosité de son comportement. Le jugement estime que c'est cette attitude qui a entraîné la mort des 4 adolescents et du plaisancier venu les secourir. Les avocats du prêtre, eux, expliquent ce jugement par la pression de l'opinion publique.
Si je ne craignais d'être méchant à l'égard de la presse, je rappellerai la parole célèbre d'un de mes illustres confrères qui disait « L'opinion publique est une gueuse, il faut la chasser du prétoire ».
Le tribunal a assorti la condamnation pénale d'une interdiction définitive d'encadrer un camp d'activité sportive ou physique.
Il y aura 2 autres procès et 2 décisions similaires. L'abbé a beau se cramponner à la barre, a invoqué la vieillesse, la fatigue, il ne meut toujours pas. La mère de Damien, droite, lui répond « J'ai bien entendu, monsieur Cottard, que la fatigue était votre excuse. » Mais vous n'avez pas pris en compte celle de mon enfant. Je souhaite que vous soyez sanctionné pour cela. Finalement incarcéré en août 2002, le prêtre sort de prison en 2003 pour retourner dans un prieuré en Indre-et-Loire. Dans cette affaire, il reste une mémoire biaisée dans le petit milieu de ces pseudo-scouts, mais vrais traditionalistes. L'intervention des 3 sauveteurs, qui est souvent passée sous silence. À Riaumont, dans la minuscule chapelle attenante au monument mort du village, on y trouve bien une plaque élevée en hommage aux 4 adolescents victimes. Mais aucune mention de Guillaume Castanet, 32 ans, mort en sauvant son prochain.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la faute de l'abbé Cottard, dont nous parlons avec notre invité maître Yann Gasnier. Bonjour.
Bonjour.
Approchez-vous du micro.
Merci. Voilà.
Vous étiez l'avocat de l'une des parties civiles de cette affaire, la mère de Guillaume Castanet, hein, le sauveteur mort en secourant les enfants. Je crois savoir que cette affaire vous a beaucoup marqué. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la liberté de le dire en introduction. Vous confirmez ?
Oui, tout à fait. Cela étant, il faut rester relatif par rapport à ce qu'ont subi réellement les personnes directement impliquées, les principaux protagonistes. Et ce que j'ai pu ressentir à travers ce procès n'est absolument rien au regard de ce que ces derniers ont subi. On ne s'approprie pas un deuil. Le deuil de Dominique Cigogneau était terrible. Elle l'a exprimé à différentes reprises, mais avec beaucoup de sagesse et beaucoup de pudeur. Mais il faut croire qu'elle n'a pas complètement subi ce deuil jusqu'au bout, puisque elle s'est suicidée, je dois le préciser, 20 ans après, jour pour jour, la disparition de son fils.
Oui. Et donc cette affaire vous a beaucoup marqué, toutefois en tant qu'avocat, par, j'imagine, par empathie, ce que vous avez ressenti, c'est
ça ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis aussi par les différents protagonistes de ce procès, en particulier ce personnage odieux,
Cottard.
Qui était l'abbé Cottard.
Vous pouvez le décrire ?
Alors, un homme extrêmement rigide, métallique, avec un regard assez froid, mais compensé par un sourire ironique, narquois, et toujours engoncé dans cette soutane, avec à la main toujours un missel, comme s'il s'agissait d'une protection divine. Et un peu un message qu'il semblait transmettre, vous avez la justice des hommes d'un côté, et moi je suis protégé par Dieu, et en quelque sorte rien ne peut m'atteindre.
Et votre justice n'est pas légitime, en gros.
Tout à fait. C'était un peu cela étant, ce ne l'a pas empêché d'interjeter appel et de former un pourvoi en cassation, avec les conséquences qu'on connaît, c'est-à-dire que 3 fois de suite, en dépit d'une loi pénale plus douce, puisqu'en fait le pourvoi était fondé sur ce motif, il a été condamné à 3 reprises pour les mêmes faits.
Comment se fait-il qu'il exerce une aura, une influence si forte sur le collectif, à tel point qu'il y a comme quelque chose de sectaire là-dedans ?
Alors, Manifestement, il y avait un aspect sectaire dans cette affaire, et tout reposait en fait sur la conviction, je pense, des adhérents de cette association, des parents de ces victimes, qui adhéraient complètement à cette interprétation, puisqu'il ne s'agit pas d'autre chose, cette interprétation de la religion catholique, qui est extravagante, puisque on parle sans cesse d'appel à Dieu, d'un destin qui est personnifié par cette catastrophe, et par conséquent, il n'y a pas d'autre solution que de subir la volonté divine. Et l'abbé Cottard se prétendait être l'interlocuteur privilégié de cette interprétation divine, et c'est la raison pour laquelle les familles étaient coincées entre l'amour de leurs enfants, la tristesse et la souffrance de ce deuil, et leur conviction religieuse. C'était, j'imagine, un conflit intérieur extrêmement douloureux à assumer.
Et là, on voit une fois de plus les ravages du dogme, quels que soient les dogmes,
religion
en premier lieu, mais aussi politique et autres. Bon. Et justement, ça renvoie au comportement des parents. C'est ça qui est choquant. Quand on raconte dans ce récit que les parents disent « Mais non, Cottard n'a rien à faire en prison, ils sont embrigadés. » Enfin, où est leur libre arbitre? Et surtout, où est leur douleur? Enfin, ce sont des parents.
Alors, je pense que ces parents souffraient.
Oui, incontestablement. Pourquoi la pas, cette douleur?
Mais en fait, ce sont ces parents qui ont confié leurs enfants à cette association. Quelque part, ça renvoie un peu aussi à leur responsabilité de parents. Et par conséquent, refuser la vérité, c'est même pas de refuser la culpabilité de Cottard, c'était de refuser de connaître les faits, de refuser de savoir ce qui s'était passé. Parce qu'en fait, la constitution de partie civile permettait en premier lieu aux parents d'avoir accès au dossier et de savoir ce qui s'était réellement passé. Et là, comme vous l'avez rappelé dans votre récit, depuis le début, depuis l'organisation, depuis la doctrine de cette association, jusqu'à l'organisation de ce raid nautique, et jusqu'à son comportement après le naufrage, au moment où il appelle extrêmement tardivement ses secours, il n'y a qu'une accumulation d'erreurs, et plus que cela, de fautes extrêmement graves. Mmh. Et ça, les parents, un parent, en principe, lorsqu'il a connaissance de ces éléments-là, il me semble, aurait dû prendre les décisions qui s'imposent et lui demander des comptes, ne serait-ce que ça.
Est-ce que le fait de ne pas lui demander des comptes et de protester contre sa mise en prison n'est pas pour se disculper eux-mêmes, finalement?
Peut-être. Et c'est difficile d'interpréter ce que peuvent ressentir des parents dans un moment aussi douloureux. Il est très difficile de pouvoir... Moi, je ne me permettrai pas de les juger...
Non, j'ai posé la question, c'est peut-être pour ces discussions.
Oui, bien sûr. Peut-être que c'était une façon pour eux, effectivement, de subir ce drame en l'intériorisant, quelque part, certainement, par rapport à leurs convictions. Et à cet égard, vous avez parlé du couple Lasnet-Lanty. Alors, c'est vrai que Madame Lasnet-Lanty s'est constituée de partie civile, a eu un comportement extrêmement courageux à travers cette intervention, au regard des pressions qu'elle a pu subir. Mais il y avait une autre personne qui était là aussi, qui était au procès, c'est le père, Monsieur Lasnet-Lanty. Et cette présence était très troublante, parce que on le voyait physiquement partagé entre ses convictions et la souffrance d'avoir perdu son fils. Et on le sentait vraiment à la limite entre le monde des autres parents qui soutenaient totalement l'abbé Cottard et lui qui quand même se rendait compte à travers les relations qu'il avait avec son épouse et sa constitution de partie civile, avait connaissance d'un certain nombre d'éléments. Et ça se voyait dans sa présence, dans son regard. Il y a quand même une mère de famille qui a dit si elle avait perdu un enfant, l'abbé Cottard, lui, en avait perdu quatre.
C'est quand même, ça va loin, quand même.
Ça va très très loin, c'est assez terrifiant.
Quel souvenir le plus fort gardez-vous de ce procès? Est-ce qu'il y a eu un moment, ou un moment de bascule?
Alors, il n'y a pas eu véritablement de moment de bascule, parce que l'abbé Cottard commençait par... s'expliquer et reconnaître quelques erreurs. Mais tout de suite après, pour rebondir, pour dire qu'en fait, c'était pas lui, c'était soit les enfants qui avaient insisté pour faire ce raid, soit que la responsabilité incombait à d'autres. En revanche, il y a un des jeunes scouts qui s'est manifesté. Alors, je ne sais pas si c'est le même qui s'est manifesté auprès d'Yves Corneloup que de moi-même, mais après que cette affaire ait été plaidée, il s'est approché de moi et discrètement, il m'a dit merci. Mmh. Et il y a aussi un scout qui a fait le même geste à l'égard d'Yves Corneloup. Je ne sais pas si c'était la même personne, mais en tout cas, ça, franchement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a dit, qui m'a laissé entendre qu'il y avait quand même de l'espoir. Parce que dans un dossier comme celui-là, en fait, on ne peut plus rien faire pour le passé. Et ce qu'on espère, c'est que pour l'avenir, les choses évoluent et qu'on avertisse les parents de ne plus fréquenter ce genre de structure.
France Inter. Affaires sensibles.
Yann Gasnier, vous m'avez apporté un dessin en noir et blanc qui montre un bateau, une petite embarcation, un frêle esquif, pris dans une tempête. Il y a trois personnes à bord qui semblent avoir peur. Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors oui, ce document figurait parmi les brochures de l'association des guides et des scouts et guides catholiques de France. Et c'est un programme. Illustré, cette iconographie montre un bateau en perdition avec trois enfants, quasiment avec des têtes de mort, une voile qui est arrachée. Dans la tempête, c'est le programme annoncé de ce qui s'est en réalité passé par la suite. C'est impressionnant.
C'est complètement fou. Les parents vont envoyer des enfants, sachant qu'ils vont prendre des risques en vertu du programme figurant sur le dessin. C'est fou.
Oui, parce que l'objectif était de les endurcir et de supporter des conditions terribles pour devenir des hommes, selon leur conception, évidemment.
Alors, il y a donc le cinquième mort, Guillaume Castonnet, dont la mémoire est bafouée par ses fidèles de l'abbé Cottard. Donc, Guillaume Castonnet est un plaisancier qui respecte le code de tout marin. Hein. Tout marin doit aller porter secours à des marins en perdition. Donc, c'est normal, mais c'est quand même héroïque, parce que c'est souvent dangereux. Et là, c'est plus que dangereux, mais comment peut-on bafouer la mémoire de cet homme ?
Oui, ça a été insupportable pour Dominique Cigogneau, clairement. Et la grand-mère, d'ailleurs, parce que j'étais aussi l'avocat de Suzanne Cigogneau, qui était la grand-mère de Guillaume Castanet. C'est incompréhensible et évidemment insupportable. Il y a, je crois, d'ailleurs, un monument avec une plaque où il n'y a que les noms des quatre scouts décédés. Il n'y a pas celui de Guillaume Castanet. Par conséquent, c'est une souffrance, c'est un oubli, je ne sais pas, ou carrément, c'est occulter la vérité, c'est occulter le fait que c'est Guillaume Castanet et ses coéquipiers qui ont sauvé ses enfants. Car il faut quand même rappeler qu'à l'époque, les trois survivants auraient eu la vie sauve, non pas grâce aux plaisanciers, mais
au secours.
Parce qu'ils avaient fait preuve de courage et de détermination et auraient chanté des psaumes pendant leur naufrage. C'était ça l'explication qui était fournie aux familles et non pas l'intervention des plaisanciers qu'on a complètement oublié. Et à cet égard, je tiens à préciser quand même une petite chose qui est quand même très importante, c'est que lorsque le bateau d'Yves Béconnier, d'Yves Corneloup et de Guillaume Castanet répond à l'appel au secours par cette fusée, en réalité, ils le font en constatant la présence de deux bateaux au loin, des bateaux en action de pêche, et qu'ils se disent à ce moment-là qu'ils vont intervenir en soutien de ces deux autres bateaux.
Ce qui serait normal, le code des marins.
Exactement. Qu'ils interviendraient en soutien de ces deux autres bateaux. Et lorsqu'ils arrivent sur place, ils sont tout seuls, et peut-être que si ces deux bateaux étaient restés, parce qu'ils ont été constatés, leur présence a été aussi constatée par les enfants, les conditions du sauvetage, qui ont été terribles, auraient peut-être permis de sauver la vie de Guillaume Castanet.
Que pensez-vous d'abord du jugement, et puis le fait que Cottard soit sorti de prison un an après, peut-être même quelques mois après?
Alors le jugement, il est remarquable. D'ailleurs, il a été confirmé à deux reprises. Oui. Et puis, en plus, la présidente, Mme Lécuyer, a tenu des débats également d'une façon extrêmement remarquable. En ce qui concerne la sortie de détention de l'abbé Cottard, je ne me hasarderai pas sur ce sujet, parce que ce n'est pas mon rôle, en tant que partie civile de l'époque, d'aborder la sanction pénale en tant que telle, la détention. Oui. Voilà. Cela étant, la peine qui a été prononcée dans son principe, c'est-à-dire les 4 ans de prison, qui correspond à l'application à l'époque du texte au regard de l'homicide involontaire aggravé, puisqu'en fait, l'homicide involontaire, c'était 3 ans,
oui.
Et aggravé, c'était 5 ans. Mmh. En ayant 4 ans de prison, c'est que le tribunal a retenu l'aggravation de l'homicide involontaire. Par conséquent, cette décision était, répondait aux attentes de Dominique Cicogno.
Et ce sera le mot de la fin, maître Yann Gasnier. Merci.
Je vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la faute de l'abbé Cottard, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Élise Christophe.